Bonjour et bienvenue dans notre chronique juridique hebdomadaire. Chronique juridique qui n'a toujours pas de nom, d'ailleurs, il va falloir en trouver un. Donc, à vos suggestions, n'hésitez pas, si vous avez des idées, à nous les suggérer sur les réseaux sociaux de Diva FM. Donc, chaque semaine, vous le savez, nous évoquons des thèmes de société et leur encadrement juridique. Aujourd'hui, je vais vous parler de la famille recomposée et plus précisément du statut du beau-parent. Enfin, s'il en est, puisque ce sera la première question que nous allons nous poser. Est-ce que le beau-parent, à savoir le nouveau conjoint de votre père ou de votre mère, a un statut juridique? Alors vous découvrirez qu'une réalité sociétale, parce que de nos jours, un enfant sur 10 vit dans une famille recomposée, donc c'est une réalité. Eh bien, ce type de réalité ne trouve pas toujours de consécration juridique. Alors, comment se débrouillent les familles pour faire reconnaître des droits ou des obligations sur les membres de cette famille recomposée?
Bonjour Céline, comment allez-vous?
Bonjour, je vais très bien. Et vous?
Très bien, merci. D'ailleurs, on avait sollicité un petit peu cette passion du droit que vous avez. Et notamment, c'était quand le droit s'exprime avec passion. Et c'est vous qui l'exprimez avec passion. Donc on verra si ce nom convient ou si on partira sur des propositions d'auditeurs. À vous de noter vos avis sur Facebook, sur le Facebook de Diva FM et vos suggestions également de thèmes. Alors c'est vrai que vous abordez aujourd'hui un sujet qui concerne à peu près, et comme vous le disiez, beaucoup de cas, vous disiez un enfant sur 10, c'est ça? J'aurais même pensé plus, vous voyez, maître.
Et oui, effectivement, mais un enfant sur 10 vit dans une famille recomposée. C'est vrai qu'on a l'impression de nos jours que la famille, c'est pas une impression, c'est une réalité, la famille se diversifie. On a la famille traditionnelle avec un papa, une maman, la famille homoparentale, la famille monoparentale et la famille recomposée.
Exactement.
Qui vient multiplier les questionnements en termes d'autorité parentale. Qui est titulaire de l'autorité parentale? Quels sont les droits et les obligations du beau-parent? Qui vit avec l'enfant et qui l'accompagne parfois plus que son parent biologique?
C'est bien ça. Alors, c'est vrai qu'on va commencer. Déjà, c'est vrai qu'il y a une multitude de choses à parler sur la famille recomposée, notamment. Il y a les droits de succession, il y a les enfants d'un nouveau mariage. C'est vrai que ça fait beaucoup, beaucoup de choses à aborder, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez ciblé ce statut, celui du beau-parent à part entière. Et c'est vrai que, comme vous le disiez, Céline, il est important de mettre ce statut en avant, car souvent, les responsabilités sont autant importantes vis-à-vis du beau-parent que le parent biologique. Comme je vous le disais hors antenne, c'est vrai, aller chercher les enfants à l'école, les avoir avec eux soit en voiture, les accompagner à des activités, en être responsable, justement. Et tout cela, vous avez envie de dire que ce beau-parent, déjà, est-ce que légalement il a un statut juridique? Et là, vous m'avez surpris.
Et oui, effectivement, le beau-parent n'a pas de véritable statut juridique. Il n'y a aucun chapitre du Code civil qui lui est dédié, ce qui n'induit pas que le législateur l'ignore et que le juge ne va pas entendre ses prétentions, ni lui imposer certaines obligations. Mais l'idée, c'est que lorsqu'il n'existe pas un texte dédié sur une thématique, on se sert des instruments juridiques à disposition pour les interpréter et pour les appliquer à une situation qui est particulière. Alors aujourd'hui, il n'y a rien de très particulier, de très nouveau au fait que les familles soient composées d'un parent biologique et d'un beau-parent, mais le législateur ne s'est pas encore mis au diapason pour lui accorder un statut spécifique. Alors, Il y a eu quelques tentatives, hein, en 2006, en 2014. On a voulu mettre en place ce qu'on appelait le mandat d'éducation quotidienne, ce qui permettait aux beaux-parents donc d'accomplir les actes du quotidien.
Oui, bien sûr.
Mais le législateur n'est pas allé au bout de l'exercice. Ouais. Donc juridiquement, il n'y a pas de lien juridique, de lien entre l'enfant et son beau-parent. Un beau-parent ne bénéficie pas d'un congé maternité lors de l'accueil, l'arrivée d'un enfant qui n'est pas le sien. Bon, ça peut arriver, c'est assez rare, mais ça peut arriver. Le beau-parent n'est pas soumis à une obligation alimentaire en cas de
séparation.
Et en termes d'héritage, on le verra un petit peu plus dans le détail à la fin de notre discussion, mais si on ne prend pas de disposition, l'enfant n'est pas successible, n'est pas l'héritier de son beau-parent.
Directement, s'il n'y a pas des démarches qui sont faites avant.
Exactement.
Alors, c'est vrai que vous parlez des activités du quotidien. Voilà, avoir la responsabilité de ce bel enfant, de cet enfant qui n'est pas biologique. Déjà, vis-à-vis des institutions, qu'on parle de l'école, qu'on parle des activités sportives, même si on a un accident avec cet enfant imaginé en voiture, comment ça se passe là déjà, Maître Lendo? Parce que là, déjà, les écoles, est-ce qu'elles vont nous donner l'autorisation de pouvoir prendre l'enfant, si c'est pas à travers le parent biologique? Comment ça se passe tout ça, légalement, vraiment?
Oui, alors pour tout ce qui est accomplissement d'actes du quotidien, l'accord d'un seul parent
suffit.
Ok, pour inscrire son enfant à un cours de tennis, à la piscine, l'accord d'un parent suffit. Le parent va désigner les personnes qui sont susceptibles de venir récupérer l'enfant. Les écoles sont également informées, en tout début d'année en général.
Oui, nous fait cette fameuse demande avec tous ces papiers qui sont assez embêtants, mais qui sont nécessaires.
Et oui, tout à fait, parce que justement l'école est responsable, hein, et doit savoir à qui elle est en mesure de remettre l'enfant. Donc généralement, lorsqu'il y a des familles à risque d'un point de vue de l'entente, l'école est très rapidement informée. Donc à ce niveau-là, tout est fait pour que l'école sache à qui elle peut remettre l'enfant sans difficulté. La question qui se pose, c'est, alors au-delà des actes du quotidien, où c'est une pratique qui n'a pas encore été consacrée juridiquement, mais voilà, il y a un consensus lorsqu'il y a un beau-parent, on le voit au quotidien, les professeurs voient bien que c'est cette personne qui se charge d'accompagner, de raccompagner, bon voilà. Donc ça, c'est une pratique qui ne nécessite pas pour l'instant d'encadrement législatif. Mais quand on veut aller au-delà, quand l'on veut, on vit depuis des années avec cet enfant, on l'a élevé, on participe à son éducation, à son instruction,
son bien-être.
Voilà, on l'aide à devenir le citoyen qu'il sera plus tard. Eh bien, on peut souhaiter consacrer juridiquement ce lien, d'un point de vue symbolique, mais également justement pour anticiper, voilà, juridiquement, pour anticiper toute difficulté à l'avenir. Alors, il y a plusieurs possibilités. Qui sont parfois provisoires, qui sont définitives, qui sont légales et qui ne le sont pas. Alors, pour celles qui ne sont pas légales, c'est effectivement ce qu'on appelle les reconnaissances de complaisance. Donc, par exemple, un homme se met avec une femme qui est enceinte, mm-hmm. L'enfant n'est pas de lui, mais il va l'élever. Eh bien, il va le reconnaître. Il faut bien sûr qu'il n'y ait pas de filiation déjà établie. Hein,
bien sûr, qu'il n'y ait pas déjà le parent biologique qui l'ait reconnu.
Exactement. Donc, il va le reconnaître auprès de l'État civil. Bon, ce n'est pas...
Mais là, c'est presque avant la... Quoi ? Je veux dire, c'est quand la naissance de l'enfant se fait, on va dire. Il devient presque le père, pas biologique, mais légal.
Voilà, c'est
parce
ça.
Parce qu'il va en mairie pour déclarer l'enfant et dire qu'il est lui-même le père, en fait, même s'il n'est pas biologique.
Exactement, c'est ça. Il n'y a pas de contrôle. L'officier d'État civil ne contrôle pas la filiation biologique de la personne qui
D'accord.
va se prétendre contre le père.
Oui, c'est vrai
qu'on
ne demande pas une prise de sang, on ne demande pas un test ADN, non,
tout
ça c'est certain.
Oui. Voilà. Donc, il faut évidemment faire très attention à ce type de démarche parce que, donc, on appelle ça une reconnaissance de complaisance. La frontière entre la reconnaissance de complaisance et la reconnaissance frauduleuse existe. Hein. Parfois, il y a des reconnaissances pour bénéficier de certains droits.
D'accord.
Oui. Ah oui. Voilà. Pour, je vais reconnaître un enfant parce que, grâce à lui, je vais pouvoir obtenir des aides.
Oui, des avantages sociaux.
Exactement. Voilà. Bon, voilà. Donc,
oui, là, il faut y penser quand même.
Oui, oui, oui. Bon, ben voilà. Là, on est dans l'illégal.
Mais ça se peut.
C'est se fait, en tout cas.
Oui.
Ça ne se, oui, c'est ça pas que ça devrait se... pas se faire, mais ça
si
se
vous
fait.
En parlez, c'est que ça se fait.
Voilà. Lorsque l'on revient dans le cadre légal, eh bien, on peut penser à l'adoption. Qu'en est-il lorsque un couple élève un enfant, il y a un parent biologique, on va prendre pour illustrer un petit peu, pour que ce soit plus,
clair
plus
pour
audible,
tout le monde, oui.
Voilà, un papa se sépare d'une maman et il rencontre une nouvelle personne et il y a un enfant issu d'un premier lit. Bon, c'est l'expression consacrée, c'est pas très
joli,
mais,
oui,
bon,
oui, mais c'est celle qu'on emploie.
Exactement. Et la belle-mère l'élève. Cet enfant, et un lien d'affection se crée inévitablement, et elle entend eh bien, consacrer juridiquement ce statut-là et pouvoir prétendre à une certaine autorité parentale sur cet enfant, c'est-à-dire prendre des décisions pour elle, pour son éducation, sa santé.
Et être à l'égal et être à l'égal d'un parent biologique en quelque sorte.
Et être à l'égal d'un parent titulaire de l'autorité parentale.
D'accord.
D'accord. Eh bien, il peut y avoir une démarche d'adoption. Alors, ça n'est pas si simple, sans jeu de mots, parce que on a l'adoption plénière et l'adoption simple. Bon, l'adoption plénière, cela suppose une rupture totale avec le lien filial qui unissait l'enfant avec son parent biologique d'origine. Donc, c'est assez rare.
Dans quel sens,
rupture ? C'est-à-dire que le parent biologique n'est plus considéré comme le parent de l'enfant qui va être adopté de façon plénière. C'est terminé.
Mais dans quel sens ça voudrait dire qu'il y a eu quoi le parent biologique, l'autre parent biologique aurait demandé cette rupture comment ça se passe?
Alors,
en fait
parfois, ça n'est pas une demande, mais c'est un constat. En cas d'abandon d'un enfant, on va pouvoir souhaiter l'adopter de façon plénière. Et on le voit notamment lorsque les enfants sont placés. Et qui sont recueillis en
famille d'accueil.
En famille d'accueil. Ouais. Parfois, les adoptants eh bien, souhaitent devenir donc, le parent du point de vue de la
loi. Oui,
de la loi. Voilà. Des enfants qu'ils ont recueillis.
D'accord.
Et donc, ça rompt le lien avec la famille d'origine. Et là, l'enfant qui est considéré comme l'enfant des adoptants héritera de ses adoptants. Il n'aura plus aucun
D'accord.
lien avec sa famille d'origine. Mais là, je m'égare un petit peu du sujet, puisqu'on est plutôt sur, du coup, la famille recomposée et le fait que le beau-parent souhaite adopter, et on le fait souvent de façon, par l'intermédiaire de ce qu'on appelle l'adoption simple, l'enfant de son conjoint. Et bien, dans ce cas-là, comme je vous le disais, ce n'est pas si simple parce que donc, c'est une procédure qu'il faut engager devant le tribunal et qui nécessite plusieurs conditions. Première condition, il faut qu'il y ait un minimum de 10 années hein, de différence d'âge,
même,
oui, entre l'adoptant
Et les enfants.
Et l'adopter, tout à fait.
Ah oui, d'accord. Mm-hmm.
Si l'enfant est âgé de plus de 13 ans, on va demander son consentement, parce qu'il a son mot à dire. On estime qu'il est capable de discernement à 13 ans et qu'il est capable donc de discerner quel est son intérêt. D'accord ? Parce
d'accord.
que c'est toujours l'intérêt de l'enfant qui va présider à ce type de décision.
Mais un enfant à 13 ans, il est capable de répondre à cette question, de dire quel est l'intérêt qu'un beau-parent devienne
Alors,
titulaire de son adoption, en quelque sorte, quoi, de lui. Donc ça fait un peu dur quand même, non, de demander. Vous avez déjà vécu ?
Alors, effectivement, à 13 ans, parfois, c'est compliqué d'amener un enfant à donner son avis,
oui.
Notamment lorsqu'il est dans un véritable conflit de loyauté. Après, si on arrive dans ce type de démarche, justement, c'est que dans une famille classique, le sujet a été abordé.
Bien sûr, oui, c'est pas une surprise, non.
Avec l'enfant, qui a dû peut-être même lui-même émettre ce souhait-là. là. On ne lui demande pas de prendre parti pour le beau-parent et son parent biologique, puisque le parent biologique est également invité à donner son consentement. Et son consentement est une des conditions pour que le beau-parent puisse devenir l'adoptant. Voilà.
Mais alors, juste là, vous êtes en train de dire le consentement du parent. Mmh. Le parent avec qui le beau-parent vit, ou le beau-parent, ou
les
le parent,
deux.
Les deux, il faut le consentement des deux. Des deux.
Voilà, donc ça fait beaucoup de consentement.
Et si le je vais jusqu'au bout des choses, le parent qui n'est pas consentant, par exemple, admettons c'est un monsieur avec une belle-mère et la mère biologique ne souhaite pas cette adoption.
Alors que le
père biologique, oui.
Mmh. Alors, il faut le consentement des deux parents biologiques. Donc, celui qui refuse et que ce refus n'est pas légitime, donc c'est le juge, hein, toujours, qui va devoir apprécier. Prenons l'exemple d'un parent qui se désintéresse totalement de la vie de son enfant depuis sa naissance, depuis des années, qui n'a plus de lien, qui ne vient même pas le voir, qui n'a pas de droit de visite et d'hébergement, qui ne contribue pas du tout à son...
aucun lien.
Voilà, exactement. Si lui dit non pour dire non, le juge pourra apprécier le caractère abusif de ce refus et pourra rendre une décision nonobstant ce refus. Mais c'est une des conditions de base pour pouvoir saisir le juge et solliciter donc une décision qui va prononcer l'adoption simple de l'enfant par le conjoint de son parent.
D'accord.
Voilà. Ça, c'est une possibilité. Et il y a une autre possibilité, alors, qui est plus provisoire, qui s'appelle la délégation d'autorité parentale. Donc ça, c'est exemple tout bête. Un parent vit avec son conjoint et son enfant. Il se trouve empêché pour une raison spécifique, une hospitalisation, une incarcération, ou un déplacement à l'étranger pour des raisons professionnelles.
Sur un temps, on va dire, bien donné.
Exactement.
D'accord.
Et bien, dans ce cas-là, le rythme familial est déjà instauré. On ne va pas tout déséquilibrer en renvoyant l'enfant dans le foyer de l'autre parent avec lequel il ne vit pas, bon, où il n'a pas ses habitudes. Et bien, dans ce cas-là, on peut saisir le juge aux affaires familiales et demander une délégation d'autorité parentale.
C'est possible.
Voilà. Et on peut la confier. Ce n'est pas spécifique aux beaux-parents. Hein. Ça peut...
Être un tiers, vous voulez dire ?
Exactement.
Par exemple, remarquez les grands-parents, excusez-moi, par exemple, je fais la parenthèse, ils ont le droit légal de prendre les décisions pour eux ou pas ? Ou il faut justement faire cette délégation d'autorité parentale ?
C'est une délégation d'autorité parentale qu'il va falloir...
faire même pour des grands-parents, par exemple.
Oui, tout à fait.
C'était la parenthèse, du coup.
Mm-hmm. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui est très intéressant que j'avais pensé développer lors de nos émissions.
Vous allez en avoir plein, je pense, de sujets à penser.
Le droit des grands-parents vis-à-vis des enfants, ça aussi, c'est un vaste sujet.
Oui, mais en fait, du coup, ça peut donc vraiment concerner... Là, on parle vraiment du beau-parent en part entière, mais ce droit, cette délégation d'autorité parentale, elle peut donc être donnée provisoirement sur une période donnée, décidée par le parent biologique, parce que vous disiez, pour X raisons, il ne pourrait plus être dans la vie quotidienne de l'enfant. C'est bien ça ?
Tout à fait. Tout à fait. Donc ça, c'est une des solutions, mais plutôt...
Et la période, elle peut être...
La période dépend de la cause, en fait, qui amène les personnes à solliciter ce type de mesure. Donc ça peut être... encore une fois, c'est pas mathématique. C'est quelque
chose... Non, mais il n'y a pas à vous dire, on ne peut pas dire, admettons, ça ne peut pas aller, je vous dis, au-delà de 5 ans, admettons.
Non, c'est au cas par cas, véritablement. Après, c'est toujours le juge statuera toujours en fonction de la cohérence de la demande, des circonstances, et donc c'est ça qui va être le curseur, hein, de la durée de ce type de mesure.
Bon, du coup, c'est vrai que non, mais c'est très intéressant de savoir ça, parce que on se pose pas les questions quand on vit au quotidien, et d'un coup, quand un cas se met devant un petit peu devant nous, et bien là, d'un coup, on se dit quelles sont les options, et vous êtes en train de les donner. Alors c'est vrai que tous ces avantages qu'on aurait à faire ces démarches, en fait, ça serait surtout lesquels, en fait, les avantages d'avoir l'autorité à l'égal de l'autre parent, c'est surtout ça, en fait.
Alors, l'avantage Alors, ça dépend de la personne. L'avantage pour le beau-parent, alors évidemment qu'il y a une raison qui est purement symbolique et parfois on a le souhait de légitimer sa place dans une famille qui existe, qui préexistait à notre arrivée. Donc, mais au-delà de cette récompense, cette consécration juridique pure et dure, l'avantage c'est qu'on apparaît aux yeux de la société comme une famille. Et le titulaire de l'autorité parentale, celui qui l'exerce, eh bien participe à la vie de l'enfant, doit être informé en amont de toute décision le concernant, peut lui-même prendre des décisions d'un point de vue de la santé.
On a vraiment le statut à part entière.
Effectivement. Donc voilà l'intérêt pour le beau-parent que de venir donner un statut à sa situation de fait.
Vous qui avez une grande expérience, Maître Lindo, dans cette situation-là, vous voyez un apaisement chez le beau-parent quand il a un statut tel que celui-là, donc d'adoptant et avec l'enfant adopté. Vous voyez qu'il y a un soulagement de dire ça y est, j'ai une reconnaissance parce que ça fait X années que je m'occupe de cet enfant, même s'il n'est pas biologiquement le mien, mais malgré tout, je me suis autant investi que ça aurait pu être le mien. Vous voyez un soulagement, que c'est quoi pour eux, leur souhait vraiment ?
Oui, une immense joie d'abord, et ensuite un soulagement parce que on a l'impression d'avoir anticipé les difficultés qui peuvent surgir dans toute famille classique. Et lorsque l'on s'investit dans une famille, eh bien, on veut pouvoir répondre à ces difficultés-là lorsqu'elles se posent avec légitimité. Voilà. Donc c'est un besoin que ressentent les parents, c'est un besoin que ressentent également les enfants.
D'accord. Mais vous le voyez souvent, ce cas, quand même, ou c'est encore assez rare malgré tout? Parce que je l'entends pas souvent, moi. Franchement, vous m'avez surpris aujourd'hui avec le thème. C'était le cas, de toute façon. C'était fait exprès, hein, parce que vous allez nous surprendre chaque vendredi. Mais c'est quand même quelque chose qui est assez récurrent comme demande, ou pas spécialement,
maître? Alors, ce qui est récurrent, c'est d'avoir à accompagner des personnes qui se situent dans des familles recomposées. Donc, je fais pas des adoptions simples tous les jours. Par contre, c'est une thématique, c'est une problématique à laquelle on est confronté régulièrement, parce qu'aujourd'hui, les familles sont tellement diversifiées que lorsque l'on vient nous voir, on n'a pas forcément le schéma traditionnel qui va se régler.
C'est au cas par cas, vraiment.
Exactement. Hein. Oui. Donc, c'est dans les faits, c'est quelque chose que l'on traite au quotidien. Maintenant, les familles
doivent préparer en fait toutes ces situations-là, même après leur décès. C'est vrai que ça fait beaucoup de choses à prévoir. Mais moi, ce qui me surprenait, c'était l'adoption, vraiment, maître. Parce que ça, j'avais jamais entendu, en dehors de dire que un des parents biologiques était décédé, et donc là, le beau-parent voulait se substituer aux parents, malheureusement, qui n'étaient plus là, et pour qu'il y ait autant qu'il ait les mêmes responsabilités que le parent biologique. Mais par contre, du vivant, non, je savais pas que même si les deux parents biologiques étaient là, on pouvait demander l'adoption des beaux enfants, quoi. C'est vraiment c'est une chose très importante, et je pense, voilà, donc vraiment. Si on a cette envie-là, et s'il faut y penser, ça serait parce que vraiment, vous pouvez rappeler, maître, pourquoi vraiment il faudra aller dans cette démarche? Vraiment, bon, déjà, il y a affectif, on l'a compris. Et les autres, c'était surtout d'un point de vue juridique, c'est bien ça?
Oui, voilà, d'un point de vue juridique, pour pouvoir être titulaire d'une autorité parentale et l'exercer. Sachant que ça, encore, ce n'est pas quelque chose qui se fait de façon automatique. Hein, suite à l'adoption simple, il faut que le parent biologique conjoint de l'adoptant fasse une déclaration commune pour pouvoir exercer conjointement l'autorité parentale sur l'enfant adopté.
Oui, il a vraiment que le nom d'adoption simple, hein, parce que sinon, c'est pas simple du tout.
Effectivement.
Bon, alors vous êtes allé jusqu'au bout des choses, maître, comme d'habitude. Et c'est vrai que se passerait-il ? Là, tout est beau, tout est clair, mais que se passerait-il si, justement, le beau-parent qui a demandé l'adoption de ses enfants vient à se séparer du parent biologique ?
Alors, donc deux schémas, effectivement. Le beau-parent qui a adopté vient à se séparer du parent biologique. Là, on est dans un schéma classique de parent tous deux titulaires de l'autorité parentale et qu'ils exercent tous deux. Si vous voulez, hop, on retombe un petit peu sur le schéma traditionnel, oui. À savoir que l'un et l'autre, l'un va demander la garde, l'autre sollicite.
Là, ça fait un sacré mélange. Vous vous rendez compte, s'il y a, mettons, je reprends toujours l'exemple du papa biologique et de la belle-maman, s'il y a la maman déjà qu'il faut biologiquement partager la garde avec le papa biologique plus le beau-parent, ça fait beaucoup pour un enfant.
Alors, ça fait beaucoup, mais si vous voulez, aujourd'hui, effectivement, ça me fait penser
difficilement
à
ce schéma, quoi.
Pas mal de problématiques où on doit composer avec plusieurs cellules familiales pour statuer sur le sort d'un enfant. Je pense même à, au-delà de l'adoption, un couple se reconstitue, on a les enfants de monsieur, les enfants de madame. Et bien, dans toute l'organisation familiale, on doit composer avec, pour l'enfant de madame, avec le père de l'enfant, qui lui-même a reconstitué une cellule familiale avec une personne de sexe féminin ou autre, mais qui a également des enfants. Donc on est dans un schéma à quatre.
Non, c'est certain.
C'est véritablement c'est un défi pour les juridictions que de trouver un rythme qui puisse concilier l'intérêt de l'enfant.
Voilà, parce qu'il faut l'intérêt surtout de l'enfant, parce qu'après, il ne faut pas être égoïste quoi, pour penser à soi.
Et voilà. Et la capacité des parents à accueillir les enfants. Bon, donc juste une petite, je rétropédale pour répondre à votre question, mais de façon détournée. Oui. C'est-à-dire que ce qui est intéressant également, c'est de se demander, le beau-parent qui n'a pas fait de démarche pour
adopter l'enfant pour adopter son conjoint.
Bon, il va passer 10 années de sa vie à éduquer cet enfant, mais il ne fait rien, d'accord ? Il se sépare. Bon, qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce qu'il a des droits ?
Eh ben non, j'ai envie de vous dire.
Eh ben, alors là, théoriquement, non. Mais heureusement que dans les faits, heureusement que c'est l'intérêt de l'enfant qui préside, il a la possibilité, toutefois, de saisir le juge aux affaires familiales, de démontrer,
l'investissement qu'il a eu.
Voilà.
Et juste parenthèse, il a besoin d'être marié ou concubin, ou il n'y a pas besoin d'avoir un statut marital. Hein.
Non.
Juste la preuve qu'ils ont coexisté ensemble sur un même foyer pendant au moins, vous avez dit combien d'années
il y a Non, il n'y a pas de durée non plus.
D'accord.
Non.
Mais il faut prouver qu'on était ensemble dans le même foyer, quoi, c'est
exactement.
Ça.
Exactement.
D'accord, mais il n'y a pas besoin d'être marié, paxé, rien du tout. D'accord, ok. Non, c'est important de savoir aussi ça.
Oui, c'est très important.
D'accord. Mais donc, il a le droit, vous disiez, s'il n'a pas forcément fait ses démarches d'adoption, il a quand même un recours qui est possible.
Oui, il a la possibilité de demander au juge aux affaires familiales de lui accorder des droits de visite et d'hébergement. Puisqu'il a quand même vécu avec cet enfant pendant des années, et même pour l'enfant, ce serait une rupture brutale que de ne plus le voir du jour au lendemain, parce que les séparations, ça ne se fait jamais dans du coton. Et si les parents ne sont pas capables de trouver une entente, parce que ça, c'est quand même le principe qui préside en matière familiale, les personnes qui éduquent les enfants... c'est leur accord qui prévaut, et en cas de désaccord, il vaut mieux avoir une décision du juge qui vient dire si vous trouvez pas de meilleure solution, tel week-end l'enfant sera avec monsieur, tel week-end sera avec madame, voilà. D'accord. Donc c'est ce qui s'appelle l'organisation des droits de visite et d'hébergement. Donc le beau-parent qui n'a pas de statut juridique peut démontrer la réalité du lien affectif qu'il a développé avec le petit, l'enfant, et donc solliciter des droits de visite et d'hébergement.
Bon, ça c'était déjà une chose. Maintenant, celui qui a demandé son adoption, là il va avoir quoi alors du coup, puisque déjà celui qui n'avait pas de statut spécial peut le faire. Alors là, j'imagine s'il est titulaire, encore plus.
Oui, voilà. Là, on retombe dans le schéma classique, effectivement, où il n'y a plus rien à démontrer. Une présomption, on va dire, d'affection.
Hein? Bon, mais là, au moins, là, c'est sûr. Bon, après, de toute façon, il faut savoir quand même qu'on est toujours dans l'intérêt de l'enfant et pas d'être égoïste dans une démarche propre de dire, je vais t'embêter et pour t'embêter, je vais faire ça. C'est vrai que... Faut voir l'intérêt de l'enfant. Vous devez sûrement le voir, ça. Elle hoche de la tête, je vous le dis. Malheureusement. Et oui, ça, c'est après, parce que c'est parfois, ce qui est pas beau, c'est quand l'enfant devient le vecteur de vengeance.
Voilà. Et oui, on a parfois des enfants pris dans un conflit de loyauté Et c'est très difficile pour des parents qui sont en souffrance, hein, eux-mêmes, que d'être lucides. Et c'est un combat intérieur, selon moi, pour d'épargner l'enfant des conséquences de la séparation. Certains y arrivent. Moi, je suis admirative et je ne peux qu'inviter, quand j'ai une personne dans mon bureau qui, avec sa rancœur, son passé et ses souffrances, exprime ce qu'elle a exprimé. J'essaie toujours de l'amener à la conciliation, mais parfois le dialogue est véritablement impossible.
Et très compliqué, non, on le comprend très bien. Alors, donc, on parlait de ces différents statuts qui pouvaient donc y avoir. Maintenant, maître, vous le disiez, donc, si on veut adopter l'enfant de son conjoint en étant beau-parent, c'est possible, donc à travers plusieurs possibilités, c'était l'adoption notamment simple. Même on peut demander en cas de séparation, même si on n'a pas fait ces démarches, d'avoir un droit de visite, parce qu'il y a eu quand même, c'est vrai, toutes ces années passées, ces investissements qu'on a mis avec affection, avec amour à travers l'enfant. Donc c'est vrai que c'est très important de le souligner. Après, eh bien là, on va carrément penser à la fin de vie. Vous disiez, là aussi, de refaire en quelque sorte bien les choses quand on arrive à décéder en tant que parent ou beau-parent, et de dire, je suis le beau-parent, est-ce que j'ai le droit de faire hériter cet enfant qui n'est pas le mien, mais qui est celui de mon conjoint, est-ce que j'ai le droit ?
Oui, il n'y a aucun interdit là-dessus, il faut simplement l'anticiper. Ça ne se fait pas automatiquement, puisque l'enfant de votre conjoint n'est pas votre héritier réservataire, n'est pas votre héritier tout court. Donc, dans ce cas-là, il faut tout simplement prévoir des dispositions testamentaires. Voilà.
Donc, alors là, je vais vous embêter, parce que vous savez pourquoi je vais vous embêter, maître ? Parce qu'il y a des droits de succession.
Oui.
Qui ont un taux différent en fonction du statut que l'on a. Mm-hmm. Ça peut être entre les parents, ça peut être entre frères et sœurs, ça peut être de parents à enfants. Mais là, disons que je veux préparer les choses. On va prendre le même cas que vous disiez tout à l'heure. Je n'ai fait aucune démarche en tant que beau-parent, mais je veux que cet enfant, qui est celui de mon conjoint, hérite en tant que beau-parent. Maintenant, je n'ai pas fait les démarches, on dit. Les droits de succession sont au maximum,
oui.
Au plafond.
Et oui, parce qu'il n'y a pas de lien de filiation. Et même en cas d'adoption, l'administration fiscale va vérifier qu'il y a eu donc une communauté de vie, des soins continus apportés pendant les 5 années de la minorité de l'enfant, ou pendant 10 ans lorsque la période concerne la minorité et la majorité de l'enfant. L'administration fiscale fait cette vérification-là pour voir si l'enfant adoptif qui va hériter peut bénéficier peut bénéficier du même statut
que l'enfant
naturel.
Biologique. Parce que je crois que le taux est bien différent. Je crois que c'est 60%, il me semble, quand on
c'est
est
ça.
Avec aucun lien parental affilié aux personnes. Et je crois que quand c'est enfant, c'est combien ? Je ne me rappelle plus, maître. Il me semble, je crois que c'est 40%, je ne sais plus. On le verra, parce qu'on fera une émission aussi dédiée aux droits de succession. Mais ça, on le fera, vous inquiétez pas. Parce qu'il faut savoir tous les choses là. Oui. Maintenant, donc, vous disiez, si on a fait ces démarches d'adoption simples, donc que l'enfant est reconnu comme le on va dire le vôtre, voilà, hein, c'est le cas, là on bénéficie de cet abattement. Mais si il y a toutes ces conditions, vous disiez, c'est ça.
Effectivement.
Même qu'on a fait la démarche.
Oui.
Mais
oui,
qu'elle
oui.
a été validée par le juge.
Oui, parce qu'en fait, c'est un contrôle tout simplement de l'administration fiscale qui peut intervenir ou pas. Mais
je ne pensais pas, parce qu'à partir du moment que je pensais que le papier légalement a été fait, il n'y a pas besoin de contrôle.
Non, il y a toujours.
Ne souriez pas.
Il y a toujours des contrôles. Donc, non, à ce niveau-là, c'est. C'est-à-dire qu'au moment de la succession, on va se présenter comme l'enfant adoptif qui peut prétendre au même traitement que l'enfant naturel, mais il peut y avoir un contrôle a posteriori pour vérifier que cela correspond à la réalité.
Et maître, si je m'y prends trop tard, cet enfant est déjà adulte, mais je suis encore avec le parent biologique. biologique. Hein. Mmh. Il a 40 ans. Mais d'un coup, j'y pense. J'ai mon Dieu, j'ai plein de biens. J'ai pas envie qu'il parte dans la nature à X. Je veux qu'il ait justement cet abattement en devenant mon enfant. Comme s'il était biologique, vous disiez cet enfant adopté. Même s'il a un âge adulte, c'est possible ?
C'est possible et c'est plus facile, puisque là n'est requis que le consentement de l'adopté, puisqu'il est majeur. On n'a plus besoin du consentement de ses parents.
D'accord.
Donc oui, c'est souvent un schéma...
Des deux parents, là on n'a plus besoin. C'est que vraiment la personne concernée, l'enfant concerné. Là, s'il est, on va dire, en majorité, à l'âge légal de majorité, 18 ans.
Voilà, c'est ça. Donc, à ce moment-là, oui, c'est un schéma que l'on retrouve assez souvent, notamment pour des questions de succession.
Hein, oui.
Quand il s'agit de personnes majeures qui se font adopter, c'est bien souvent par des gens avec qui ils ont créé un lien familial de fait, mais qui n'avaient pas de consécration juridique.
Et là, il ne faut pas de preuves, maître, comme quoi il y a eu une vie commune avec le parent biologique. Même je vous dis, admettons, j'ai un enfant que je considère comme le mien, même si j'ai pas vécu quelques années avec un des parents biologiques, mais à force de le fréquenter, de le voir, je me suis attachée. Est-ce que je peux le reconnaître comme mon enfant adopté ou pas ?
Parce que l'adoption simple ne coupe pas le lien avec la famille d'origine,
même si j'ai pas vécu sur un même foyer avec un des parents biologiques. Non, ça c'est. Il faudra qu'on se renseigne hein, quand même, parce que c'est une question. Parce que moi j'aurais envie peut-être de m'attacher à un enfant et de lui laisser tous mes biens. Donc ça, il faudra vraiment qu'on se fasse le point sur les droits de succession. Vous allez voir, on va en faire des questions. L'émission, elle va durer une heure, maître. Vous allez voir. Bon, en tout cas, ce qu'on va rappeler les points essentiels avant de se quitter. Car déjà, la demi-heure est passée, on s'en aperçoit jamais. Et après, vous avez tant de choses à faire vous aussi, maître. Allez. Et donc, rappelons ces points. Aujourd'hui, le thème que nous avons abordé, c'était celui du beau-parent. Voilà. Est-ce que le beau-parent, en cas de famille recomposée, est-ce qu'il a un statut ?
Non.
Vous disiez non. Voilà, donc... dépité presque. Non, voilà, vous disiez non, le beau-parent n'a pas de statut juridique légal. Par contre, il peut en demander un à travers, par exemple, l'adoption simple. C'est
voilà, tout à fait. Il peut ensuite demander une délégation d'autorité parentale, conjointement aux parents, bien sûr. Et puis, il peut anticiper l'avenir et la fin, notamment soit de la relation de couple avec le parent biologique, soit la fin de vie, donc en faisant des démarches auprès des juridictions
exact.
Ou des notaires.
Oui, voilà, tiens, on peut avoir autant de droits si on a reconnu les enfants. Donc on les a adoptés qu'un parent biologique en cas de séparation et aussi en cas de succession. Voilà, donc plein de démarches, j'espère, qui vous ont été simplifiées aujourd'hui. Maître, vous allez nous rappeler deux choses. Premièrement, le sujet de la semaine prochaine.
Alors, le sujet de la semaine prochaine, eh bien, justement, ce sera les successions.
Eh ben voilà.
Alors, les successions en France et également en Italie. Voilà la différence entre les deux.
Entre un pays voisin, il y en a beaucoup ?
Et il y en a quelques-unes quand même.
Donc. Eh bien, on verra ça, justement, parce que parfois, les pays voisins sont très proches, mais si différents. Et pouvez-vous aussi, s'il vous plaît, maître, nous rappeler vos coordonnées ? Vous les avez ?
Oui, tout à fait.
Superbe. Elle s'est organisée, non ? Alors, en tout cas, vous pouvez retrouver maître Céline Lindeau chaque vendredi sur l'antenne de Diva FM de 16h à 17h. Nous serons ensemble pour éclaircir ce mystère, eh bien, le mystère du juridique qui est si compliqué. Et voilà, on est là où le droit exprime tout avec passion aujourd'hui. Donc, maître Céline Lindeau, rappelez-nous les coordonnées de votre cabinet, s'il vous plaît.
Oui, donc c'est le 04 86 01 28 70. Et vous pouvez également contacter le cabinet par le formulaire de contact sur le site www.lindo-avocat.fr.
Voilà, et on se retrouve donc la semaine prochaine. Si vous avez des suggestions de sujets, ne vous embêtez pas. Soit vous nous laissez un message sur le répondeur de Diva FM au 04 91 44 00 43 ou bien sur les réseaux sociaux à travers le Facebook de la radio Diva FM. Proposez vos sujets, vos thèmes et maître Lindo se fera un plaisir de les traiter pour vous et retrouver cette émission sur le site internet en podcast sur le www.diva-fm.fr. On vous remercie maître et on se retrouve la semaine prochaine.
Merci à vous et à la semaine prochaine.